au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Il me fait plaisir de vous retrouver en ce lundi 24 novembre à l'émission. Aujourd'hui avec nous, Joey Deslauriers, maire de Saint-Donat. Il serait question d'hébergement touristique avec Pierre Paquette. On va parler de ces fameux transfuges politiques, les vire-capots de la politique. Sébastien Avenadeau avec nous, maire de l'Assomption. Il sera question de la deuxième édition du programme AXIS, pour faciliter la vie là, des producteurs agricoles. Également, Mathieu Bélanger, analyste politique, avec qui on fera un retour sur l'affaire Vincent Marissal. Mais tout d'abord, le ministre québécois des Infrastructures, Benoît Charrette, a visité la future maison des aînés de Saint-Charles-Borromée avec son collègue, le député de Joliette, François Saint-Louis. Les deux politiciens sont venus à CFNJ où ils ont répondu aux questions de notre collègue François Morin.
J'aurais vous avez visité les installations de la future maison des aînés. Quand même, on peut pas se le cacher, là, c'est quand même assez impressionnant dans le paysage joliétain.
Ben, non seulement c'est impressionnant dans le paysage local, mais à la grandeur du Québec, ce sera la plus grosse maison des aînés. Tout près de 290 résidents, résidentes qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle infrastructure-là. Et c'est des milieux de vie. Hein. On est très, très loin des CHSLD comme on a pu les concevoir et comme on peut les imaginer encore aujourd'hui. Donc, pour les gens qui vont en bénéficier, c'est un milieu de vie là, de premier plan, de première qualité là, qui elle, leur sera offert.
Il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que cette réalisation-là découle du fait qu'on a fermé deux CHSLD là, qui étaient devenus vétustes.
Exact. Donc, on vient regrouper en un seul lieu. Puis, c'est un avantage parce que dans le cas de d'autres maisons des aînés, c'est une nouvelle infrastructure, ce qui fait qu'on a de la difficulté dans certains cas à recruter le personnel. Donc là, déjà, c'est un souci en moins. Non seulement on est dans le budget, on est dans l'échéancier qui était anticipé et on a les équipes prêtes à offrir le service aux gens de la population locale.
Maintenant, M. Saint-Louis, député de Joliette, on connaît maintenant de plus en plus le secteur. Il y a la maison des aînés, la maison de soins palliatifs, bon, le centre d'amitié autochtone de la Nadiac s'en va là. C'est devenu un secteur là, autour de l'hôpital là, qui est vraiment là en plein développement au niveau de la santé et des services sociaux.
Tout à fait. Puis si on recule un peu plus loin, on va se souvenir là, du généreux don qui a été fait par la Fondation Sylvie L'Espérance. Madame L'Espérance qui a été aussi députée de Joliette au début des années 2000. Donc oui, c'est un secteur où les services sont concentrés, puis avec de nouvelles infrastructures, comme le mentionnait le ministre. Donc très fier de voir l'avancement des travaux. La bâtisse devrait être terminée à l'automne 2026 et les opérations, le transfert là, des bénéficiaires. Et du personnel, ça va se faire là, en début d'hiver, là, donc pleinement opérationnel là, au printemps 2027.
Il y a encore quand même de l'espace dans ce coin-là pour développer peut-être dans le même créneau?
Écoutez, je vous cacherai pas une chose. Moi, vous le savez, là, le centre hospitalier de Joliette, situé à Saint-Charles-Borromée,
a besoin d'amour.
Oui, tout à fait. Ça date des années 50. C'est un ancien hôpital psychiatrique. Donc, il y a lieu là de prévoir là, pour la suite des choses pour les prochaines générations. Donc, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Puis, j'espère qu'on ira de l'avant parce qu'on connaît le temps de projection, la mise en chantier, puis tout ça. Un hôpital, ça se construit pas en 2 ans. Donc, faut y penser maintenant.
Maintenant, si je reviens à vous, M. Charrette, effectivement, on parle d'infrastructure dans la région immédiate de la Nadière, particulièrement Joliette. Il y a un cégep qui a besoin, effectivement, de lui aussi beaucoup d'amour. Le pavillon, lui aussi, devient vétuste. Et là, ben évidemment, on comprend là, qu'il y a eu des ajustements au niveau des budgets. Qu'est-ce qu'on fait pour venir en aide au cégep de Joliette?
Les réponses vont venir dans les prochaines semaines. On pourra se reparler volontiers à ce moment-là. Ce que l'on fait actuellement, là, c'est déjà préparer le prochain. Là, c'est dans notre jargon, vous m'excuserez, le prochain PQI, le plan québécois des infrastructures. Donc, les ajustements de budget, les confirmations d'échéanciers vont venir davantage à ce moment-là. Mais c'est un dossier qu'on connaît bien, qu'on suit bien, et on est pleinement conscient des besoins de la région aussi. Mais c'est un secteur Le secteur ici a de beaux projets là dans les cartons. On parlait de la maison des aînés. Oui, des besoins au niveau du cégep également, mais il y aura des réponses là dans les prochaines semaines dans le cadre de la mise à jour du PQI.
Donc, dans le cadre de la mise à jour du PQI, il pourrait y avoir également des réponses peut-être pour toutes les municipalités qui réclament là, de l'aide pour les infrastructures municipales pour faire face au changement climatique.
Je vous confirme que c'est un défi qui est difficile à résoudre en ce sens que les besoins sont immenses. On a fait comme gouvernement passer le PQI, là. On l'a essentiellement fait passer de 100 à 164 milliards. Donc, il n'y a aucun gouvernement qui investit dans ces infrastructures comme le nôtre et malgré tout, les besoins sont énormes. Donc, ce qui est important de faire, c'est du séquençage. Si on ne peut pas tout faire en même temps, en fait, on aurait des budgets illimités qu'on ne pourrait pas tout faire en même temps. Il y a des enjeux de main-d'œuvre aussi. Donc, là, on est en train de concilier justement les budgets avec la disponibilité de main-d'œuvre pour mettre en place ces projets-là. Mais on investit comme jamais, autant au niveau du maintien d'actifs, parce que mon collègue François le mentionnait, on a des infrastructures qui sont vieillissantes, donc faut les entretenir, faut les maintenir en état, mais faut construire aussi que ce soit écoles, hôpitaux, des routes, compte tenu de l'accroissement de la population. Donc, des défis importants, mais l'argent est au rendez-vous et on investit là, comme jamais au niveau de nos infrastructures au Québec.
Donc, il faut accroître la formation de cette main-d'œuvre-là pour pouvoir justement réaliser des projets majeurs.
C'est un défi au niveau de la construction. On a nos collègues, autant Catherine, une autre époque, elle a changé de dossier depuis, qui s'y est longuement tardé. Jean Boulay au travail, qui est aussi sur le dossier. Donc, l'enjeu de la main-d'œuvre est important. Puis, à partir du moment où on a un déficit de main-d'œuvre dans certaines régions, ça a un impact sur la capacité de réaliser des projets. Ça a un impact aussi sur le coût des projets. Donc, non seulement on a de l'argent pour les infrastructures elles-mêmes, mais on s'assure d'avoir une relève là, au niveau de ces métiers d'avenir. Ce sont de beaux métiers qui offrent de belles perspectives et des garanties d'emploi pour les prochaines années et décennies. On a toutes les infrastructures publiques, mais il y a Hydro-Québec aussi qui a pour des dizaines de milliards, en fait 200 milliards d'investissements dans les prochaines années. Donc, pour nos jeunes qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient choisir comme métier, la construction, c'en est un qui est très prometteur.
C'est François Morin qui a eu l'occasion de rencontrer le ministre québécois des infrastructures, Benoît Charrette, qui était accompagné du député de la circonscription de Joliette, François Saint-Louis. Il est 16h13. Bonne nouvelle au niveau circulation. On avait un problème sur Charles de Gaulle, accident impliquant deux véhicules. C'était dans la voie de gauche. La voie de gauche était fermée. Ben, ça a été déplacé. Donc, le mal est fait. Par contre, là, c'est dense depuis Bourget et ce, jusqu'à la hauteur du club de golf de l'île de Montréal. Dans un moment, Mathieu Bélanger, notre analyste politique, on fait un retour sur l'affaire Vincent Marissal.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Un ongle incarné récalcitrant vous fait souffrir? La matricectomie permet d'extraire de façon permanente et sans douleur la bordure incarnée de l'ongle. Prenez rendez-vous 450-398-PIED 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Salut, c'est la bottine souriante.
Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Chez Lustre Auto Saint-Félix de Valois, redonnez de l'éclat à votre voiture. Lavage extérieur pour seulement 20 $ sans rendez-vous. Passez dès maintenant au 4164 rue principale à Saint-Félix de Valois. Lustre Auto, propre, rapide et brillant.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Les grands classiques de Noël et du temps des fêtes seront au rendez-vous tous les jours de la semaine et du week-end. Faites de CFNJ votre radio au bureau, dans votre commerce, en auto, à la maison et au chalet. Vivez pleinement ce temps de réjouissance au son de votre radio dans la Naudière. CFNJ 99.1 88.9, la vraie radio du temps des fêtes.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant, location 60 mois, à partir de seulement 89 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Vous l'attendiez toute l'année et c'est enfin arrivé. Le Vendredi fou chez Ameublement SG Dion, c'est maintenant. C'est le grand événement, celui qu'il ne faut surtout pas manquer. Fauteuil ailerant motorisé, berçant avec ajustement de la tête et du lombaire, le confort suprême à 1099 $. Économisez 600 $. Matelassé lit grand lit avec ressort en sachet à 659 $, taxes incluses. Cuisinière GE auto-nettoyante, 899 $. Lave-vaisselle à 549 $. Économisez 150 $ additionnels pendant la vente du Vendredi fou. Alors, qu'attendez-vous? Ces aubaines ne dureront pas. Les économies du Vendredi fou chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord, Notre-Dame-des-Prairies. C'est seulement une fois par année. Ne manquez pas ça.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Jersey, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Cuthbert, Crabtree,
CFNJ, 99.1, 88.9.
La Naudière PM. Politique provinciale.
Il est 16h17, haute onde de choc sur la colline parlementaire à Québec après les tiraillements au sein du Parti libéral du Québec qui ont été rendus publics la semaine passée. Ça semble quand même s'adoucir là pour Pablo Rodriguez puisque des militants mettent leur contestation sur pause là, concernant ces fameuses allégations de brownies au Parti libéral. Eh bien, en fin de semaine, on a appris qu'un homme fort de Québec solidaire, Vincent Marissal, quitte le navire en invoquant que le parti est ingouvernable. Et François Morin a discuté là-dessus avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Mathieu Bélanger, nouvelle crise politique qui secoue un parti à Québec. Cette fois, c'est Québec solidaire qui perd un de ses soldats, et pas le moins, là, Vincent Marissal.
Vincent Marissal, anciennement chroniqueur à la presse, notamment, dans d'autres médias aussi. Et oui, donc, qui démissionne de Québec solidaire, qui est démissionné, expulsé de Québec solidaire. Ce qu'on sait, bref, c'est qu'il se cherchait un appui, une voie de passage pour basculer du côté du Parti québécois, qui avait des discussions. Ça s'est su à l'interne de Québec solidaire, et avant que Vincent Marissal ne puisse annoncer son départ, Québec solidaire lui a montré la porte. Vincent Marissal explique qu'il ne se sent plus bien au sein de Québec solidaire, qu'il croit que le parti est un parti trop radical, ses mots à lui, et c'est fait un peu une des personnes à qui s'était confié au sein de Québec solidaire qui a décidé d'aller rapporter ça aux autorités de ce parti-là, ce qui a mené à son expulsion du parti. Donc, il quitte amer cette formation politique-là. Il y a quelques visions idéologiques différentes, notamment la question de la gestion de la grève du côté de la STM à Montréal dans les dernières semaines, entre autres choses. Au moment où on se parle, il n'est pas encore, il est devenu un député indépendant, n'est pas encore du côté du Parti québécois. Et on sent que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, veut attendre les prochaines élections avant que peut-être Vincent Marissal puisse traverser et devenir candidat finalement du Parti québécois, mais pour l'instant, il demeure député indépendant.
On s'est déjà souvent parlé, vous et moi, là, de la difficulté de Québec solidaire de s'implanter et de faire passer son message. Est-ce que c'est pas là, justement, la décision de Vincent Marissal, là, un signe que ça va pas bien au sein du parti?
C'est toujours un signe comme de quoi que ça va pas bien quand quelqu'un quitte un parti politique, notamment pour des raisons de désaccord sur des enjeux de fond. Donc, c'est pas le candidat que Vincent Marissal soutenait, qui a remporté la course là, pour être co-porte-parole masculin de Québec solidaire. Cela a probablement pu jouer aussi de se dire que la vision qu'il voulait voir de l'avant n'est pas celle que les militants ont choisie. Il a décidé de quitter ça envoie encore une fois la discussion sur quelle est la vision à long terme de Québec solidaire, à moins long terme. Est-ce que c'est un parti qui veut devenir un parti de gouvernement avec tous les compromis que cela peut impliquer, ou un parti qui veut demeurer plus pur idéologiquement, avoir une vision comme ça, même si ça la cantonne un rôle d'opposition? Selon Vincent Marissal, lui, il voulait que le parti devienne un parti plus de gouvernement, un petit peu comme Gabriel Nadeau-Dubois l'avait tenté de faire un virage au sein de Québec solidaire. Et toujours selon Vincent Marissal, c'est pas la direction que le parti a choisi de prendre, notamment avec des au-delà des enjeux de fond, avec la stratégie pour de mise de l'avant par Québec solidaire pour faire valoir ses idées, en attaquant, par exemple, là, les valeurs qui sont portées personnellement par Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, et de ça, Vincent Marissal a voulu s'exclure de cela, se dissocier de cela. Mais ça, c'est une autre tuile qui s'abat sur la tête de Québec solidaire. On se rappelle qu'il a depuis un bon bout maintenant est loin dans les sondages, autour là, de 10% d'appui à peu près en moyenne là, selon les sondages, qui s'est dépassé maintenant par le Parti conservateur du Québec. Ça ne va pas bien pour Québec solidaire, ça demeure vrai à un an des prochaines élections et un peu moins d'un an. Est-ce que Québec solidaire va être capable de changer la donne? Ben, Sol Zanetti, ça fait pas longtemps qu'il a été nommé comme co-porte-parole. Ça fait pas peu de temps, en même temps, que Ruba Gazal a été nommée comme celle qui deviendrait la candidate au poste de premier ministre aux prochaines élections, première ministre dans son cas. Il y a quand même des choses qui se sont mises en place, et là, avec le départ de Vincent Marissal, où c'est une nouvelle donne qui commence pour Québec solidaire. Il lui reste peu de temps pour faire changer les choses dans l'opinion publique, mais c'est une immense tâche là, qui est toujours devant Québec solidaire.
Alors donc, au niveau des partis d'opposition, ça va pas bien pour le Parti libéral. On en a abondamment parlé la semaine dernière. Il y a encore des développements à venir. Québec solidaire, qui voit un de ses, je dirais, leaders, je le qualifierais comme ça, en tout cas, une de ses têtes d'affiche, quitter le navire. Est-ce que ça pourrait, à la limite, donner faire des petits là et avantager d'une certaine façon le Parti conservateur?
Ce qui se passe au sein de Québec solidaire, moins probable, mais pas impossible. Il y a des gens qui peuvent voter Québec solidaire plus en protestation contre les formations politiques plus importantes, comme la CAQ, comme maintenant le Parti québécois, le Parti libéral, sans nécessairement adhérer au discours plus idéologique, au sens positif du terme ici, au discours plus de gauche de Québec solidaire. Donc oui, il y a des vases communicants, même si c'est contre-intuitif, entre Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec, ce vote plus contestataire-là. Ça se peut que certains électeurs donc décident de quitter Québec solidaire pour aller vers le Parti conservateur du Québec. On peut s'imaginer, par contre, que plus de vases communicants entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec, ou est-ce qu'il y a une proximité idéologique nettement plus importante. Et par contre, il y a probablement plusieurs de ces électeurs-là qui ont quitté la CAQ pour le Parti conservateur, qui ont justement déjà fait ce choix-là avec toute la chute de la CAQ. Certains au sein du Parti libéral du Québec aussi, avec les chicanes qu'on connaît maintenant au sein du Parti libéral, peuvent aller voir ailleurs. Et ça se peut que le Parti conservateur soit un réceptacle pour certains de ces libéraux déçus-là. On sent que les terrains sont très mouvants entre les diverses formations politiques. Il y a une reconfiguration de la scène partisane au Québec, avec la chute très importante de la CAQ, la remontée du Parti québécois qui était au tapis il y a à peine quelques années. Québec solidaire qui a aussi connu une chute, une tentative de remontée du Parti libéral, et là qui confrontait des gros défis. Effectivement, la seule formation d'opposition, à part le Parti québécois, qui est en avance dans les sondages depuis quand même un certain temps maintenant, la seule formation autre qui va relativement bien présentement, et le mot relatif est important ici, c'est le Parti conservateur, où il y a une certaine croissance limitée, mais une certaine croissance. Mais encore une fois, le temps que la grande marche significative n'est pas encore atteinte, c'est-à-dire d'avoir un député élu à l'Assemblée nationale du Québec, idéalement là, élu sous la bannière du Parti conservateur, ben ça demeure très difficile pour la formation que le Parti conservateur du Québec de vraiment rentrer dans l'imaginaire collectif, de vraiment avoir sa place dans le débat politique québécois. Beaucoup de mouvances, on sent qu'on ça a beaucoup une odeur de fin de régime, souvent dans ces contextes-là, quand un parti politique est au pouvoir depuis longtemps, comme c'est le cas pour la CAQ maintenant, et qu'une reconfiguration comme ça, ben on voit que ça bouge, qu'il y a des députés qui deviennent des députés indépendants, qui veulent changer de parti politique. Ben c'est ce qu'on voit présentement. Et c'est un signe comme de quoi qu'on est mûr pour avoir une nouvelle élection au Québec, pour rebrasser justement les cartes entre les diverses formations politiques.
C'était notre analyste politique Mathieu Bélanger, et je crois qu'on aura droit vraiment à un rebrassage des cartes là, sur la scène politique provinciale là, au cours des prochains mois. Et je tout porte à croire, ce que je peux voir, c'est que le Parti conservateur d'Éric Duhaime sera probablement la deuxième opposition à Québec. On a l'occasion de revenir là-dessus d'ailleurs tout à l'heure là avec Pierre Paquette. Là, on va parler des vire-capots en politique. On a appris dans la dernière heure que le journal La Presse poursuit la plateforme d'intelligence artificielle ChatGPT pour viol du droit d'auteur. Et La Presse reproche à ChatGPT d'avoir utilisé sans consentement ni rémunération environ 378 000 de ses textes. Il y a d'autres médias canadiens qui poursuivent eux aussi la plateforme en Ontario et selon La Presse, le succès de ChatGPT aurait été impossible sans l'utilisation non autorisée de ses textes et de ceux de plusieurs autres médias. Débat très intéressant qui s'annonce. 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, très problématique là cet après-midi. C'est depuis le boulevard du Golfe où on commence à lever le pied là et ça demeure lourd, je vous dirais, là, jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. La traversée de la rivière des Prairies est quand même assez facile. Repentigny, la 40 direction est, ça se passe quand même assez bien. Route 341, montée de l'Épiphanie, là, c'est assez dense entre la 40 et la rivière l'Assomption. Pont Le Gardeur, oh, c'est lourd de ce côté-là depuis Montréal. Donc, l'approche est quand même assez facile malgré tout là, depuis Notre-Dame ou encore depuis Sherbrooke, mais c'est lourd pour franchir la rivière des Prairies. La 25 Nord, cette fois, ouais, c'est quand même assez bien. À peine, un peu nombreux le secteur de la jonction avec la 440. Approche facile du boulevard des Mille-Îles et on traverse aisément vers Terrebonne. Pont Sophie-Masson, ça va bien en ce moment et finalement, autoroute 640. Assez simple dans les deux directions entre la 25 et la 40. Une nouvelle avec Pierre Jubinville dans un instant.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
En ce moment, c'est le Vendredi fou chez Rona. Et qui dit Vendredi fou dit nos meilleures offres de l'année.
Genre sur
ben des produits.
Impossible. Pas sur les lumières de Noël Lendon & Co. sélectionnées.
À 50% de rabais?
Ben non. Puis les toilettes allongées deux pièces Spezia, elles.
À 50% aussi?
Ah ouais. Puis le rouleau de peinture aromatisé?
Hey, arrête d'inventer des affaires. On n'en vend pas de ça.
Je te testais.
Ah! Profitez de ces offres-là jusqu'à mercredi durant le Vendredi fou chez Rona. Des conditions s'appliquent. Plus d'offres au rona.ca.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption.
16h30, c'est le temps de retrouver Pierre Jubinville avec l'actualité. Tout d'abord, Pierre, il y a une citoyenne de Berthierville qui fait circuler une pétition pour qu'on règle une fois pour toutes là, l'avenir du monastère.
Oui, on est déjà rendu à 850 personnes qui ont signé la pétition que fait circuler depuis une semaine Louise Bonnet-Savignac. Elle vit à proximité de ce site historique depuis plus de 70 ans. Elle se place du côté des promoteurs qui réclament le déclassement des lots protégés de la démolition par le ministère de la Culture il y a 2 ans. Madame Bonnet-Savignac aurait préféré que le monastère soit préservé, mais compte tenu qu'il est inhabité depuis 14 ans, ça coûterait des millions pour le rénover.
Ça faisait plusieurs, plusieurs mois que j'y pensais, étant donné l'inactivité qui se passait au monastère de Berthierville et sur ses terrains. Sincèrement, moi, ma priorité, ça aurait été de le garder, le monastère, parce que j'ai J'ai 71 ans, puis ça fait 71 ans que je l'ai dans mon décor, puis que je trouve que c'est un endroit magnifique. Mais comme ça fait 14 ans que c'est vide et puis que, qu'il se passe vraiment rien, ni d'un côté ni de l'autre, j'ai choisi d'aider et de supporter les propriétaires du monastère et des terrains actuellement.
L'objectif, Claude, est de recueillir 1000 signatures. Il faut souligner aussi que le maire Pierre Lahaye de Berthierville fait circuler la pétition et il incite les citoyens, lui aussi, à la signer.
Moisson Lanaudière qui va innover pour avoir un meilleur portrait de sa clientèle.
Oui, ce sont des projets pilotes de numérisation qui sont en cours depuis 2 ans dans 3 moissons au Québec et ils permettront de tracer un meilleur portrait, justement, de la pauvreté. La directrice générale de Moisson Lanaudière, Céline Gauthier, explique que tous les organismes sont dorénavant tenus de faire de fournir une foule de renseignements pour dresser justement ce bilan de la situation.
On a constaté aussi au cours des dernières années qu'il y avait énormément de personnes avec des revenus moyens qui là demandaient de l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivaient plus à cause justement de l'inflation, le prix des loyers qui a augmenté, le prix de l'essence à un moment donné qui avait augmenté aussi là de façon drastique, le panier d'épicerie. Donc ce sont des données qui aident aussi à voir c'est quoi le type de clientèle qu'on a.
Les gens qui ont recours aux banques alimentaires devront, dès mars prochain, remplir un questionnaire pour s'assurer que l'aide va à la bonne place.
Il y a le nouveau ministre de l'Agriculture, Pierre, qui était de passage à l'Assomption pour parler de la zone AgTech et de l'été désastreux là, pour les maraîchers.
Oui, il a fait le bilan de la dernière saison au Québec. Le secteur a été particulièrement affecté par beaucoup de pluie en début de saison et ensuite 3 mois de sécheresse. Et Québec devrait soumettre un plan pour permettre aux agriculteurs de mieux s'adapter aux phénomènes extrêmes. On écoute le ministre Donald Martel.
On est en train d'évaluer un peu les répercussions de ça. C'est phénoménal. On a eu énormément de pluie en début de saison, puis après ça, ça a été sec pendant plusieurs mois. C'est pas une situation à laquelle on a été confronté dans le passé. Donc, on est à évaluer les conséquences de ça. Des endroits, ça a été très positif. Des endroits, ça a été très négatif. Donc, on va ajuster nos programmes en fonction de ça.
Dans le domaine de l'éducation, maintenant, on va mettre fin au laissez-passer gratuit là, en cas d'échec au secondaire.
On appelle ça le déboulage. C'est la première fois que j'en entends parler. Mmh. Nous, on parlait de coulage.
Oui.
Alors, quand on réussissait pas une matière. Alors, on pourra plus progresser dans des matières qu'on n'a pas réussies. La mesure avait été annoncée l'année dernière et elle entrera en vigueur. Un élève, par exemple, qui a échoué ses maths du 3e secondaire, devra donc, par exemple, les reprendre l'année suivante. Cathy Thibault, ex-enseignante et ex-directrice d'école, voit ce changement d'un bon œil.
T'sais, on a eu à un moment donné une espèce de maladie là où on s'est dit que pauvre enfant, au niveau de l'estime d'eux-mêmes, c'est donc pas bon. Si tu comprenais pas grand-chose ou difficilement les contenus de l'année d'avant, comment tu peux arriver à maîtriser le niveau supérieur?
Politique provinciale, maintenant, la chicane à Québec solidaire, toujours aussi vive.
Oui, l'onde de choc se fait encore ressentir à Québec. Le solidaire Alexandre Leduc questionne l'engagement souverainiste de son ancien collègue Vincent Marissal.
Le départ surprise de Vincent Marissal en a pris plusieurs au dépourvu chez Québec solidaire.
Je comprends pas ce qui se passe. Je suis subjugué, comme tous mes collègues.
À commencer par Alexandre Leduc, qui ne digère pas du tout l'idée de le voir éventuellement passer au Parti québécois.
De voir mon ami Vincent devenir tout à coup une espèce de cheerleader de PSPP, c'est fort de café.
Il remet d'ailleurs en doute son intérêt pour l'indépendance.
C'est 8 ans que je siège avec lui dans le caucus, là. Pas une fois, je l'ai entendu faire un plaidoyer pour qu'on parle plus d'indépendance du Québec.
Vincent Marissal, de son côté, affirme que Québec solidaire est un parti ingouvernable.
La machine est très lourde à Québec solidaire. Il y a beaucoup trop d'instances, un parti militant.
Une analyse que conteste vivement Alexandre Leduc.
Ce portrait-là, cauchemardesque, peint par Vincent Marissal, j'y adhère pas du tout. C'est pas ça la vérité.
Philippe Rodrigue, Como Cogeco Nouvelle, Québec.
Et puis pour terminer, des millions de Canadiens sont maintenant inscrits au programme dentaire canadien.
Oui, en fait, 6 millions de personnes sont inscrites, dont 1,5 million au Québec. Mais la ministre de la Santé reconnaît qu'on est encore très loin de l'objectif initial.
Ça venait du NPD, je crois.
C'est une mesure que le NPD avait demandé aux libéraux pour qu'ils restent au pouvoir.
On écoute un reportage de Philippe Bonneville.
Exactement. Le nombre de citoyens inscrits au programme de soins dentaires à tarif abordable continue d'augmenter, 6 millions au Canada, mais à peine la moitié de ces gens-là sont effectivement allés chez le dentiste pour y recevoir des soins. Trop peu, selon Rojny Desai, présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec.
Pas nécessairement que les services sont pas disponibles, mais juste que les gens savent pas où aller les trouver.
La ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, dit être bien consciente que le programme, qui coûte des milliards de dollars chaque année, doit continuer d'être amélioré.
Il y a toujours des petites choses qui ne marchent pas. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas.
Et elle vise à ce que 9 millions de Canadiens y soient inscrits à moyen terme, reconnaissant du même coup que son ministère devra redoubler d'efforts pour y arriver.
Les gens ne sont pas encore assez au courant du programme. On a encore du travail à faire.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelle, Montréal.
Et ce programme de soins dentaires, j'en parlais parce que je parlais du NPD, c'est grâce au NPD et au fait que le gouvernement de Justin Trudeau était minoritaire.
Exactement, c'est pour qu'on le maintenir au pouvoir.
Exactement, qu'on a, on s'est retrouvé avec ça.
C'était une des exigences du NPD.
Oui. Merci beaucoup, Pierre Jubinville.
Bonne soirée.
16h36.
Au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM économie.
Lancement aujourd'hui de la deuxième édition du programme AgSys. L'objectif, ben, c'est de faciliter la vie des producteurs agricoles qui doivent de plus en plus relever des nouveaux défis en matière technologique ou environnementale avec les changements climatiques, on le sait. Et Régent Turgeon a eu l'occasion d'en discuter avec le maire de l'Assomption et président de la zone AgTech, Sébastien Nadeau.
Quand on pense à la zone AgTech aujourd'hui, c'est pas juste l'ancien terrain d'Electrolux puis le bâtiment qu'on est en train de construire. Il y a des programmes qui sont déjà en place et qui interpellent nos producteurs agricoles, là.
Effectivement, aujourd'hui, on lance le programme AgSys pour une deuxième édition. En fait, ce programme-là est en collaboration avec Financement Agricole Canada et le gouvernement du Québec. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on s'est associé à 5 grandes associations de producteurs. Je pense aux maraîchers, producteurs de pommes de terre, les sériculteurs aussi. Ce qu'on vient faire, dans le fond, c'est de poser les questions aux industries pour dire c'est quoi vos plus grands défis technologiques, soit l'intelligence artificielle, soit l'intégration, soit la gestion des contaminants ou quoi que ce soit. Et ensuite de ça, on vient lancer le défi à des entreprises qui viennent, elles, nous proposer des solutions. Nous, on fait une sélection des solutions potentielles. On les propose aux maraîchers ou aux producteurs. Et à partir de là, ben, on finance leurs travaux pour faire avancer la technologie. Donc, on vient aider à la fois l'agriculteur lui-même et les entreprises à venir s'installer chez nous au Québec.
Quand on lance un deuxième programme, c'est parce que le premier, à l'évidence, a été peut-être couronné de succès, puis il interpelle les producteurs.
Effectivement, cette deuxième collaboration là est encore plus performante, je vous dirais. La première fois, il y avait un petit peu de fallait faire l'apprentissage de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, les succès qu'on a connus dans la première vague, ça s'est propagé. Et là, même ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises d'Italie, il y a des entreprises de France qui sont ici, qui viennent présenter des technologies, puis qui sont maintenant associées avec des producteurs chez nous, en fonction de notre climat à nous, de nos défis à nous, et des entreprises qui sont appelées à investir chez nous au Québec, donc idéalement dans la région d'Anaudière et dans la MRC de l'Assomption.
Et indirectement ou directement, on aborde les défis justement de production dans un contexte de changement climatique et des besoins d'adapter justement nos productions.
Ben, tout ce qui se passe dans le monde, hein, on pense au changement climatique, c'est notre première référence, mais les changements politiques, les changements économiques, donc ce qu'on cherche à devenir autosuffisant sur notre production, c'est réduire, l'impact des transports sur nos fruits et légumes, c'est la fraîcheur des produits. Plus ils sont produits à proximité de chez nous, ben, plus ils sont frais, plus ils sont proches du consommateur. Alors, et ça coupe aussi les défis environnementaux. Puis il faut savoir aussi que le Québec est super bien positionné avec la disponibilité en eau, la disponibilité en énergie. Donc, on a une économie qui est très propice à devenir des leaders en termes de production agricole, de production en technologie agricole aussi. Et c'est ce que ça nous permet de faire avec ce genre d'innovation aujourd'hui.
Là, le ministre Martin était de passage ici. Il n'avait que de bons mots là, pour la zone high-tech et ce que ça signifie pour l'avenir de l'industrie là, agricole.
Ben, effectivement, pour les gens, c'est plus ou moins connu. Encore, la zone AgTech, ça demeure abstrait. Par contre, au niveau des associations de producteurs, au niveau du gouvernement du Québec, au niveau des partenaires financiers, au niveau aujourd'hui, l'Université Laval qui est présente là, avec nous, là, c'est les leaders en agronomie, ouais. on regroupe tous ces gens-là et la zone AgTech a atteint sa crédibilité. La zone AgTech est officiellement le leader québécois, financement Financement Agricole Canada. Participe au financement d'activités dans toutes les provinces et souhaite une zone AgTech dans l'ensemble des provinces du Canada. Donc, ça vient démontrer la position riche qu'on a prise, le leadership qu'on a pris, puis la nécessité de s'investir ensemble dans les nouvelles technologies.
Il y a des gens qui s'interrogent. On passe sur le boulevard de l'Ange Gardien, près du site d'Electrolux. Il y a un immeuble en construction. Ça semble pas avancer aussi vite qu'on voudrait, cette construction-là. Est-ce qu'on est toujours dans les échéanciers par rapport à l'édification de ces immeubles-là?
Oui, les échéanciers sont respectés. On parle encore d'une ouverture en janvier 2027. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bâtiment important, structure d'acier. Il faut savoir aussi que les composantes de ce bâtiment-là sont de haute technologie. Donc, on parle d'entrée d'oxygène, on parle d'entrée de gaz, on parle d'accès à des nouvelles des technologies. C'est comme construire un hôpital, des laboratoires. Alors, ce qu'on vient faire là, c'est que on construit ça, puis on va livrer ces services-là aux entreprises innovantes qui vont venir faire leur recherche, accélérer leur recherche chez nous avant d'investir dans des locaux plus grands, plus performants et les aider à se lancer. Mais ça va bien, c'est pour janvier 2027.
Au final, la zone AgTech, ça va bien. C'est le projet qu'on voyait.
Oui, est-ce que c'est pareil à 100% que ce qu'on a prévu? La réponse est non, parce que le monde change, le monde évolue. Mais je vous dirais qu'à 80%, notre vision est respectée. Et le besoin, c'est-à-dire que on va toujours s'alimenter. Hein, on a besoin de manger. Alors, ce qu'on veut, c'est manger mieux, manger à proximité, puis réduire notre impact environnemental dans la production alimentaire. Et la zone AgTech atteint sa cible.
Voilà, c'était le maire de l'Assomption et président de la zone AgTech, Sébastien Nadeau. Régent Turgeon a eu l'occasion de s'entretenir avec lui aujourd'hui. Voilà, il est 16h42. Dans un moment avec Pierre Paquette, on parle des vire-capots politiques.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Vous l'attendiez toute l'année et c'est enfin arrivé. Le Vendredi fou chez Ameublement SG Dion, c'est maintenant. C'est le grand événement, celui qu'il ne faut surtout pas manquer. Fauteuil ailerant motorisé, berçant avec ajustement de la tête et du lombaire, le confort suprême à 1099 $. Économisez 600 $. Matelassé lit grand lit avec ressort en sachet à 659 $, taxes incluses. Cuisinière GE auto-nettoyante, 899 $. Lave-vaisselle à 549 $. Économisez 150 $ additionnels pendant la vente du Vendredi fou. Alors, qu'attendez-vous? Ces aubaines ne dureront pas. Les économies du Vendredi fou chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord, Notre-Dame-des-Prairies. C'est seulement une fois par année. Ne manquez pas ça.
À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Devinez quelle chanson de Noël va débuter officiellement cette période le 1er décembre à 7h35 et courez la chance de gagner une souffleuse Cob Cadet d'une valeur de 3 000 $ offerte par les trois frères équipements de Saint-Jacques-de-Montréal. Calme. C'est simple, allez vous inscrire à cfnj.net section concours et soyez à l'écoute lundi 1er décembre à 7h35. Pour participer, il faut être membre de CFNJ. Devenez-le dans l'espace membre à cfnj.net. CFNJ, la vraie radio du temps des fêtes.
Chez JM Sport Saint-Gabriel, découvrez la puissance et la fiabilité légendaire des VTT Honda. Pour le travailleur qui exige le meilleur, Honda offre performance et durabilité à chaque départ. JM Sport Saint-Gabriel, votre accès nature toute saison. 450-835-3407.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, bon lundi.
Oui.
Oui, ça va?
Ça va bien. Pierre, avant de parler de vire-capot politique, j'aimerais ça qu'on souligne aujourd'hui, parce que tu l'as bien connu, le député du Bloc québécois, Louis Plamondon, qui inscrit son nom dans l'histoire en devenant le parlementaire qui a siégé le plus longtemps à Ottawa dans l'histoire, avec un total de 15 057 jours en fonction. Et il est déjà, faut le rappeler, détenteur là, du record du plus grand nombre d'élections remportées, en plus du plus grand nombre de jours consécutifs à siéger. Et il vient désormais de surpasser, écoutez ça, la durée de 41 ans, 2 mois et 20 jours qui a été établie par l'ancien premier ministre Wilfrid Laurier pour l'ensemble de sa carrière politique. Ça valait la peine de le souligner.
Oui, oui, je pense que ça vaut la peine. Et puis, c'est ce qui est très cocasse, c'est que comme il est le doyen de la Chambre des communes, lorsqu'il y a l'élection du président de la Chambre, c'est lui qui siège comme président de l'élection. Mm-hmm, alors, c'est quand même assez particulier qu'un souverainiste soit celui qui préside les débats en vue de choisir le président de la Chambre des communes du Canada. Alors, je pense qu'à chaque fois, nous, on trouvait ça bien cocasse de le voir là. Mais c'est un gars qui est très proche des gens. Ben, la preuve, c'est toutes ces élections qu'il a remportées.
Ah oui.
C'est pas par hasard ou par chance. Vraiment, il travaille le terrain. C'est un grand organisateur. Et donc, je le salue. Là, je sais que demain, en fin de journée, le président de la Chambre va inviter au restaurant parlementaire des parlementaires et des anciens collègues de lui. J'avais été invité, mais aller à Ottawa, l'aller-retour, c'est un petit peu compliqué. mais je vais lui envoyer un petit mot parce que je sais qu'il va y avoir un livre d'or qui va lui être remis. Alors, je vais envoyer demain ce mot-là. Alors, félicitations à Louis. C'est bien mérité.
On va maintenant revenir sur les événements politiques du week-end. En fait, l'événement chez Québec solidaire, Vincent Marissal qui claque la porte ou qui se fait montrer la porte de Québec solidaire pour avoir jasé, disons, assez sérieusement avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Dans ce cas-là, s'il était parti directement pour le Parti québécois, là, on aurait pu parler d'un transfuge politique. Et c'est pas encore le cas.
Non, c'est pas le cas. Bon, c'est sûr qu'on a bien des questions à se poser parce que M. Marissal a quand même flirté avec le Parti libéral du Canada.
Oui.
D'ailleurs, il avait commencé par le démentir. Ensuite, il l'a confirmé. Il a pensé à partir un parti pour la mairie de Montréal pour la dernière élection qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et là, bon, il est en discussion avec Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il va siéger comme indépendant. Moi, je pense quand même que pour le PQ, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que il attire des éléments de tous les courants politiques, y compris des gens qui étaient à Québec solidaire. Ceci dit, j'espère que Paul Saint-Pierre Plamondon va pas lui donner le comté de Rosemont sur un plateau d'argent. S'il veut encore représenter cette circonscription-là, je pense qu'il devra passer comme n'importe qui par une investiture. Alors ça, c'est à suivre. Là.
Ouais. Mais si on regarde présentement le QC125, le Parti québécois est en avance dans la circonscription de Rosemont, là, puis en tenant compte que c'est une circonscription là qui appartenait à un solidaire en la personne de Vincent Marissal. Mais on a vu par le passé d'autres cas comme celui-ci. Ben, au Québec, je pense à Claire Samson qui avait quitté la CAQ pour le Parti conservateur. Puis au fédéral, récemment, il y a Chris D'Entremont qui est passé du Parti conservateur au Parti libéral. Et plus, si on recule un peu plus loin, Belinda Stronach, qui était conservatrice, qui est devenue libérale.
Oui, mais bon, moi, de changer de parti, s'il y a des raisons profondes à ce changement-là, j'ai pas de problème avec ça. Lucien Bouchard a quitté le Parti conservateur pour fonder le Bloc québécois.
Attends, oui, c'est ça, là. Attention, c'est parce qu'il a claqué la porte pour fonder son propre parti, comme c'était le cas pour René Lévesque du Parti libéral à la fondation du Parti québécois.
Et il y avait des raisons profondes, l'échec de l'accord du Lac-Meech, le refus du Parti libéral du Québec d'envisager la souveraineté association. Ah. Alors, c'était sérieux. Dans le cas de Marissal, il nous parle de la loi pour le retour au travail des travailleurs
de l'STM.
En commun. Ouais, STM. C'est pas, disons, fondamental comme événement politique. Alors, si c'est juste ça, c'est un petit peu inquiétant. Je pense que c'est faire pour nous.
Marisol qui disait que Québec solidaire est un parti ingouvernable, probablement à cause de sa base militante, qui est peut-être trop à gauche, ou le wokisme aussi qu'on peut ressentir au parti à Québec solidaire, là.
Ouais, mais c'est bizarre qu'il prend conscience de ça au moment où est-ce que justement les sondages pour sa réélection dans Rosemont sont pas très bons, parce que cette atmosphère où ce climat politique au sein de Québec solidaire, ça existe depuis plusieurs années. La preuve, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a quitté exactement pour ces raisons-là, mais il y a longtemps. Il n'a pas quitté, là, mais c'est-à-dire qu'il a abandonné ses fonctions. Ouais. Il est resté à Québec solidaire pour terminer son mandat. Lui va terminer son mandat comme indépendant. Mais encore une fois, moi, ce que je souhaite, c'est que s'il veut représenter la circonscription de Rosemont pour le Parti québécois, mais qu'on passe par une investiture en bonne et due forme, mm-hmm, pour s'assurer que les militants aient la possibilité de choisir qui va les représenter à la prochaine élection québécoise. Alors, moi, j'ai pas de problème avec que Marisol vienne au PQ, malgré que je trouve que passer du Parti libéral du Canada au Parti québécois, c'est quand même fort, mais ça montre que le Parti québécois attire même des fédéralistes, des anciens fédéralistes.
Ouais.
Mais c'est ça qui me ferait de la peine, ce serait qu'on tienne pas compte des militants de Rosemont qui travaille le comté depuis des années, là.
Bon, pour le moment, il siège comme indépendant. Alors, c'est pas un véritable transfuge, parce que si tout de suite il était passé au Parti québécois, ben là, on aurait pu parler d'un transfuge comme c'était le cas pour Claire Samson. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on les transfuges comme ça, ou les gens qui claquent la porte du parti, parce que les citoyens de Rosemont ont voté pour Vincent Marisol, mais ont voté également pour Québec solidaire. Dans ce cas-là, est-ce que ça compte contribuerait pas au cynisme des électeurs envers la classe politique?
Il y a sûrement certaines personnes qui vont le prendre comme ça, là, j'ai aucun doute. Mais en même temps, s'il était vraiment mal à l'aise à ce point-là, là, comme il nous a montré lors de sa conférence de presse, ben je pense que le mieux pour lui, c'est de siéger comme indépendant. Et effectivement, il n'est pas un transfuge au sens où il passe pas au Parti québécois directement. Et je pense que du côté des électeurs de Rosemont, avec les sondages qui sont là présentement, ben il doit y avoir beaucoup de monde qui sont soulagés de le voir quitter Québec solidaire, parce que de toute façon, il aurait perdu probablement son siège à la prochaine élection. Mmh. Maintenant, encore une fois, comme je mentionnais, j'espère que le processus pour choisir le candidat du Parti québécois dans Rosemont va être une investiture en bonne et due forme, comme ça devrait être le cas, règle générale.
Il a été devancé par quelqu'un, parce que il a carrément raté sa sortie, là.
Tu veux dire de Vincent Marisol?
Oui.
Ah oui. Puis, écoute, les gens de Québec solidaire sont choqué contre lui. D'ailleurs, demain, il va pas aller à l'Assemblée nationale pour la reprise des travaux. Je pense qu'il sent quand même qu'il va falloir laisser retomber la poussière là pour être en mesure d'évaluer les impacts que ça va avoir sur Québec.
Ouais, puis j'ai l'impression que c'est parce qu'il veut peut-être pas avoir la presse collée à ses baskets, là.
Oui, exactement. Puis bon, comme c'est un ancien journaliste, j'imagine que ses anciens collègues sont pas les plus tendres avec lui.
Ouais, puis je pense à Guillaume Lepage, à Tout le monde en parle, hier soir, là, qui a sorti justement un article que Marisol avait rédigé il y a une dizaine d'années, qui parlait justement avec ironie des transfuges politiques, là.
Oui. Alors ça, mais il s'en est quand même bien tiré hier soir, là. Je pense qu'on s'attendait à pire que ça. Mais bon, moi, je pense que c'est quand même sain qu'il puisse y avoir des déplacements de députés comme ça, là. Mais en même temps, il faut pas que ça se fasse sur n'importe quel prétexte. Et là, dans ce cas-ci, je suis pas tout à fait convaincu des raisons qui ont amené Vincent Marisol à quitter Québec solidaire. J'ai l'impression qu'il y avait pour beaucoup le fait qu'il prévoyait perdre son élection à la prochaine élection.
Ben merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci, on se reparle mercredi prochain.
Bonne fin de journée.
Bye.
Lanaudière PM, tourisme.
Il est 16h54, le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, qui vit d'espoir une étude qui vient de confirmer la pertinence d'un projet hôtelier sur le territoire de Saint-Donat. Il y a une carence au chapitre de l'offre d'hébergement dans le secteur. Il y avait à l'époque l'hôtel Laurentien qui a fermé. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir justement avec le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers.
Joé Deslauriers, il y a une étude qui vient d'être complétée par une firme spécialisée. Et là, on se rend compte qu'il y a un potentiel pour un projet hôtelier sur le territoire de Saint-Donat. J'imagine qu'on voyait venir quand même ce constat-là là, depuis un certain temps.
Ben oui, écoutez, puis c'est pas pour rien non plus, tu sais, avec Tourisme Lanaudière, avec le mandat d'Orvalt, là, vraiment, c'est venu positionner Saint-Donat comme destination avec un besoin fort hôtelier. Alors, le potentiel est vraiment là et c'est l'étude est venue révéler, oui, qu'à Saint-Donat, le potentiel d'avoir un hôtel, d'un hébergement de ce type-là est nécessaire et essentiel pour continuer de se développer.
On comprend que dans le contexte actuel, faut pas garrocher, comme on dit en bon québécois, notre argent par les fenêtres. Il y aura quand même là, on acceptera pas n'importe quel projet. Là. Les gens vont devoir là, se manifester là, et être sérieux.
Oui, mais dans le fond, c'est le mandat et le résultat du mandat de cette étude-là vient vraiment révéler le potentiel de Saint-Donat. Puis vous avez raison, je pense que Saint-Donat, avec notre notoriété et notre crédibilité, ben on vient asseoir vraiment ce potentiel-là hôtelier chez nous. Et oui, on souhaite avoir un beau projet et ce mandat-là, qui est presque un plan d'affaires pour un futur projet hôtelier, ben va venir un peu consolider ce besoin-là chez nous, sans toutefois, M. Morin, dénaturer. On a une authenticité à Saint-Donat et ce qu'on souhaite, c'est de garder cette authenticité-là avec un projet hôtelier.
On peut s'imaginer assez aisément que Saint-Donat a été approché par le passé par des promoteurs, mais évidemment, là, on a peut-être dû mettre un rôle là.
Oui, tout à fait. Et là, l'étude, regardons vers l'avenir et avec l'étude là, qui vient de sortir, bien, on voit très, très bien que le potentiel que Saint-Donat peut offrir, vous savez, destination de villégiature par excellence, destination plein air aussi très convoitée. Donc, notre municipalité offre, je suis convaincu avec ce plan-là, un modèle d'affaires qui est viable et qui est bon pour les prochaines années.
Et on vient rien enlever à personne, au contraire, ça risque d'attirer davantage de gens dans la région.
Oui, tout à fait. Puis on le sait, hein, Saint-Donat est très prisé par les visiteurs. Puis d'avoir une offre d'hébergement hôtelier, comme on souhaite avoir, ben ça va venir, oui, positionner Saint-Donat sans rien enlever aux autres municipalités, aux autres destinations. Mais disons que Saint-Donat est un fleuron. Puis on souhaite vraiment avoir un projet hôtelier chez nous.
Et avec la proximité du parc du Mont-Tremblant, j'imagine qu'effectivement, là, ça devrait là, quand même aboutir assez rapidement.
Ah, le parc du Mont-Tremblant, vous savez, on a deux stations de ski, on a un golf. Oui, on a la porte d'entrée Pimbina-Saint-Donat. On a ce joyau-là à nos portes. Vous savez, c'est le plus grand et le plus vieux parc de la grande famille de la CEPAC, le parc national du Mont-Tremblant, qui a d'ailleurs obtenu sa certification de ciel étoilé là, au Dark Sky Association. Là, je le répète parce que c'est comme un fleuron qu'on a à côté de chez nous. Mais oui, plusieurs attraits. Hein, puis vous savez, le parc naturel habité, ce grand parc de 360 km² avec tous les éléments naturels et le mot habité mais qui va venir être renforcé avec l'ajout d'un hôtel à Saint-Donat.
Et la grande question existentielle en terminant, c'est pour quand?
Ah mon Dieu, écoutez, déjà je crois, je peux pas nécessairement parler trop précisément, mais je crois déjà qu'il y a certains promoteurs intéressés, intéressants aussi à venir faire un projet hôtelier à Saint-Donat.
Alors, on ne mettra pas d'échéancier, mais disons que ça serait le fun que ça puisse se réaliser d'ici les deux prochaines années.
Ben disons que oui, l'espace-temps envisagé, vous venez de le mentionner, M. Morin.
Bon, de vos projets pour Saint-Donat, c'était le maire Joué Deslauriers. Voilà, c'est déjà le moment de saluer nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Mathieu Bélanger, Pierre Jubinville, Régent Turgeon, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous, on sera de retour demain à 16h pour un autre Lanaudière PM. Et manquez pas, dans un instant, Nicolas Bellemare de l'autre côté de l'actualité de 17h avec le 5 à 7 trad. Ciao!